VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Mali, reprise aujourd'hui à Sikasso du procès de l'ex-chef des putschistes du 22 mars 2012, Amadou Aya Sanogo, et de 16 autres prévenus dans l'affaire des 21 bérets rouges dont les corps ont été retrouvés dans un charnier près de Kati, ex-quartier général de Sanogo. L'ancien leader des putschistes s'est proposé hier de payer tous les avocats dans le cadre d'une défense collective de tous les accusés. Notre envoyé spécial sur place, Kassim Traoré, fait le point.
Les avocats de la défense ont eu plus de 3 heures d'horloge d'échange avant d'aller voir Amadou Aya Sanogo, puis les autres accusés. Il ressort des échanges que Amadou Aya Sanogo se propose de payer tous les avocats dans le cadre d'une défense collective de tous les accusés. Certains avocats ne sont pas d'accord avec cette proposition parce que les accusés n'ont pas le même degré d'implication dans l'assassinat des 21 bérets rouges. Maître Boakar Karamogo Koulibaly, qui est constitué pour la défense de Ibrahim Dairou Dembélé, a dit lors de l'audience qu'il ne reconnaît pas le porte-parole des avocats de la défense en la personne de Maître Mariam Diawara. La partie civile, pour ne pas dire la victime, a reçu plusieurs émissaires. Certains sont venus leur faire des propositions de paiement de dommages et intérêts pour les victimes. D'autres pensent qu'ils doivent se réjouir de la tenue du procès, qui est en somme une victoire pour eux. Ces parents des victimes aussi connaissent des divergences, car certaines victimes sont représentées par leur maman en lieu et place de leur femme dans l'association qui les représente. En tout cas, à la reprise ce vendredi, les avocats de la défense veulent présenter de nouvelles doléances qui risqueraient d'être balayées par la cour afin que le procès puisse rentrer dans le vif du sujet en donnant la parole aux accusés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Présidentielle en Gambie, l'opposant Adama Barrow est crédité d'une légère avance selon des résultats partiels, une première dans le pays. Ces premiers résultats annoncés à la télévision par la Commission électorale nationale donnent à M. Barrow 49,67% des voix sur l'ensemble des circonscriptions de Banjul, la capitale, contre 42,64% au président sortant Yahya Jammeh et 7,6% à Mama Kandé, ex-député du parti au pouvoir et candidat d'une nouvelle formation. Les forces de sécurité sont déployées en masse aujourd'hui à Banjul, où l'issue du scrutin présidentiel reste indécise entre Yahya Jammeh et Adama Barrow, le candidat d'une coalition de l'opposition. Et toujours concernant la rubrique des élections, au Ghana, les Ghanéens se rendront aux urnes le 7 décembre pour élire leur nouveau président. Ce scrutin à un tour opposera 7 candidats. Éric Manirakiza.
La course s'annonce serrée entre deux principaux candidats et ennemis politiques de longue date. Le président sortant John Mahama brigue un second mandat contre Nana Akufo-Addo, leader de l'opposition, qui se lance pour la troisième fois. La dernière présidentielle de 2012 qui les avait opposés s'était terminée devant la justice pour les départager. Malgré le risque de violence dans certaines régions, le Ghana est resté stable et les institutions démocratiques sont respectées. En revanche, les attentes des électeurs sont énormes car la chute des cours des matières premières pèse sur les revenus de l'État. Le pays connaît des scandales de corruption, des coupures d'électricité à répétition et une inflation à deux chiffres qui ont rendu la vie quotidienne difficile pour une grande majorité des Ghanéens.
En RDC, 6 membres du mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement, ont été arrêtés jeudi à Bunia, dans le nord-est du pays. Ils tenaient un point de presse à l'occasion du coup d'envoi de la campagne pour le départ du pouvoir du président Joseph Kabila. Campagne qu'ils ont dénommée « Bye Bye Kabila ». Les explications de Luc Nkulula, membre du mouvement Lucha dans l'est de la RDC.
Les autorités de la police, enivrées par le pouvoir, se sont introduites dans la salle où se faisait le plan de presse et ils ont arrêté 5 membres de la Lucha et 2 journalistes. Jusque maintenant, nos collègues sont encore en détention et nous attendons qu'ils soient relâchés le plus tôt possible.
Est-ce que vous savez où ils sont? Que les reproche-t-on?
La police n'a pas encore dit clairement de quoi est-ce qu'ils sont reprochés jusque-là. Nous attendons peut-être demain, ils vont avoir des inspirations pour les coller des accusations fallacieuses sous le dos. Je vous rappelle qu'il y en a trois autres qui sont dans la prison centrale de Goma, à Mouzenze, pour la même cause. Ils viennent de faire 2 mois en prison. Ils vont nous arrêter et nous allons continuer à exprimer notre vœu pour ce pays, notre vœu pour ce processus électoral, pour la démocratie et le respect des lois du pays. Nous n'arrêterons pas. D'ailleurs, déjà à partir de demain, dans toutes les provinces de la République, nous allons commencer des campagnes maintenant de porte à porte, de rue en rue, pour demander à la population de pouvoir se révolter contre le maintien de ce régime au pouvoir, alors que la loi ne leur accorde plus un moment de plus.
Luc Nkulula, membre du mouvement Lucha dans l'Est de la RDC, et toujours concernant la République démocratique du Congo, offensive diplomatique du président Joseph Kabila à Washington, son émissaire Barnabé Kikaya Bin Karoubi a pour mission de rassurer les Américains sur les intentions du chef de l'État congolais. Barnabé Kikaya Bin Karoubi affirme que le leader congolais sera toujours à la présidence après le 19 décembre, fin officielle de son mandat, mais qu'il quittera bien le pouvoir quand son successeur sera élu. On l'écoute.
Il y a eu beaucoup de désinformations et de sous-informations. Les gens ne sont pas informés. Les Congolais ont trouvé une solution pour l'après 19 décembre. Le président de la République, qui a déjà accompli ses 2 mandats électifs, peut rester en fonction. Donc la fonction de président continue.
Que fera Joseph Kabila le 20 décembre à minuit 01 minute ?
Le soleil va se lever à l'est, il va se coucher à l'ouest. Il sera à la présidence de la République parce que s'il quittait la présidence de la République, parce que la constitution de la République démocratique du Congo lui demande de rester président de la République démocratique du Congo aussi longtemps qu'il n'y a pas un autre président élu. Alors notre message à la communauté internationale, à nos partenaires américains et autres, c'est de nous accompagner vers ces élections-là, que nous, Congolais, nous avons décidé, auront lieu en avril 2018. Venez nous aider et vous verrez que le président respectera. Bien sûr, à ce moment-là, il va respecter la Constitution. S'il y a un nouveau président élu, il quittera le pouvoir.
Barnabé Kikaya Bin Karoubi, émissaire du président Joseph Kabila à Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Lutte contre le sida, le pape François a lancé cette semaine un appel pour adopter un comportement aidant à prévenir une propagation du VIH. Mais le souverain pontife n'a pas précisé si cela englobait l'usage du préservatif. Les précisions de l'abbé Jean-Vier Marie-Gustavier Margot, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au sein du secrétariat pour la communication du Vatican.
Selon pas mal de chercheurs, il n'y a même pas de chiffres corrélatifs au taux d'utilisation du préservatif dans les pays en Afrique par rapport à la baisse du sida. Il y a plutôt ce travail responsable. Et dans pas mal de pays comme en Ouganda, l'Église s'est impliquée à un travail responsable pour proposer aux gens un comportement plus humain. Et ce qui a vraiment fait baisser le taux de séroprévalence dans ces pays-là. Oui, la responsabilité de l'homme par rapport à sa sexualité ou de la femme par rapport à sa sexualité. Et l'Église insiste beaucoup sur cet aspect-là. L'Église ne considère pas le rapport sexuel simplement comme un moment de plaisir. C'est un moment effectivement de don de soi à l'autre. Et c'est dans ce sens que l'Église appelle à la responsabilité. Le principe moral est que on n'a pas besoin de contraceptifs, on n'a pas besoin de préservatifs. Se préserver alors que c'est un acte de don de soi, un acte d'amour.
L'abbé Jean-Vier Marie-Gustave Yameogo au Vatican. Pour terminer, France, après la sortie du président François Hollande de la course à l'Élysée, qui sera le porte-étendard de la gauche française à la présidentielle de 2017? L'analyse de Thomas Guénolé, politologue français.
En fait, 3 personnes, dont en fait il n'y a que 2 places et il y a un fauteuil pour 2 dans un cas. C'est-à-dire que ce sera Manuel Valls ou Arnaud Montebourg pour la primaire du PS. Manuel Valls étant dans la continuité de l'héritage de François Hollande, mais avec une ligne qui lui est particulière, qui est beaucoup plus autoritaire sur les questions de sécurité et sur la relation avec la minorité musulmane. Il baptise ça fermeté sur la laïcité, mais en réalité c'est une hostilité envers le fait religieux musulman lui-même. Et il est sur une ligne de politique économique qui est identique à celle de François Hollande. Arnaud Montebourg, lui, est sur une ligne qui est relativement inconnue, on ne sait pas trop ce qu'il pense sur les questions de type minorité musulmane, sécurité, etc. Il a une position connue sur l'antiterrorisme qui est le rétablissement du service militaire. Par ailleurs, sur l'économie, c'est un keynésien et c'est un protectionniste. Donc il est vraiment dans le contre-pied à gauche de la politique préconisée par Manuel Valls. À côté de ça, vous avez quelqu'un qui, lui, est socialiste au sens fort idéologique du terme. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, qui lui est déjà parti dans une campagne qui a l'air de bien démarrer. La plupart des sondages le pointent à 15%, et donc il est vraisemblable qu'il ait une dynamique assez intéressante pour lui.
Thomas Guénot, les politologues français, merci de votre attention.